Donc nous sommes après l'histoire de Noé. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de la migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent des briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Voilà, cela s'est passé il y a à peu près 1980 ans. Les pèlerins juifs étaient réunis à Jérusalem pour la deuxième fête de l'année, la fête des récoltes. Et là, à ce moment, ils entendent tout à coup parler dans leur langue, eux, ces étrangers, venus de Jérusalem, venus à Jérusalem, signe de la venue de l'Esprit de Dieu. Quelques milliers d'années auparavant, à Babylone, les hommes aussi étaient réunis. Et tout à coup, ils se mettent à parler de nombreuses langues différentes. À partir de ce moment, ils se sont trouvés étrangers les uns des autres. Deux histoires dont les parallèles sont évidents, mais aussi dont les effets s'opposent. Deux histoires qui ne sont certainement pas étrangères à notre situation actuelle. D'abord, arrêtons-nous sur Babel. Babel ou le grand dérapage. Les hommes sont alors réunis. Ils cohabitent et vont mettre en marche leurs capacités technologiques qui sont déjà très étonnantes à l'époque. Ils construisent une ville de 15 km de côté, 68 km de pourtour. Étonnant. Les murailles avaient entre 10 et 20 mètres de large. Les maisons avaient soit 2, soit 3, soit même 4 étages. On pénétrait dans la ville par une centaine de portes. Et il y avait un temple qu'on appelait la tour, ou ziggourat aujourd'hui on l'appelle, qui était très large en bas et qui possédait plusieurs étages successifs. Elle culminait à plus de 20 mètres de hauteur au-dessus de la ville. Et dans plusieurs villes, on a retrouvé de ces ziggourats. C'était des merveilles d'architecture. Et le but était clairement spirituel. Babel signifierait la porte des dieux, même si ça a un lien avec le verbe confondre, suite, voire la suite de l'histoire. Mais la Bible révèle les motivations secrètes de ce peuple à travers ce qu'il disait. Il voulait construire une tour qui touche le ciel. Voilà le but, qui était de prendre la place de Dieu par orgueil. Au chapitre 14 du livre d'Ésaïe, les versets 13 et 14 en particulier, parlent des motivations du roi de Babylone. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel. » Il faut se rappeler que les Babyloniens ont inventé l'astrologie. Je siégerai en roi sur la montagne de l'Assemblée des dieux. Je serai semblable au Très-Haut. » Voilà ce peuple qui mettait son intelligence remarquable au service de ce but, prendre la place de Dieu. Encore une fois, on en revient à la ruse de Satan. Dès le début, il a fait croire aux humains qu'ils peuvent se passer de Dieu parce qu'ils sont eux-mêmes des dieux. Genèse chapitre 3. Voilà le grand dérapage. Il prend sa source dans l'orgueil humain. J'ai retrouvé cette citation de l'écrivain russe Solzhenitsyn qui parlait du communisme et qui écrivait « Si je devais résumer la cause profonde de cette révolution désastreuse qui a détruit 60 millions d'humains, je ne saurais donner qu'une seule explication. L'homme a oublié Dieu. » Oublier, je pense que c'est un euphémisme. Il a délibérément écarté Dieu. Nous voyons aussi que ce peuple babylonien affirmait « Faisons-nous un nom » à travers la construction de cette tour. C'est-à-dire, eh bien, que nous soyons célèbres. Donnons-nous les moyens pour être célèbres au-dessus des autres. L'orgueil contre Dieu a des répercussions aussi sur le plan horizontal. C'est l'orgueil qui déclenche tous les drames, qu'ils soient mondiaux ou familiaux, ou dans les églises. Quand l'intelligence est mue par l'orgueil, cela engendre les conflits à tous les niveaux. On se sert des autres, alors sans les servir. On cherche à assouvir ses propres intérêts et non ceux des autres. C'est l'orgueil aussi qui me pousse à me prouver que je peux m'en sortir seul. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ma vie ni pour mes projets. Et le troisième but de ce peuple babylonien en construisant cette tour était de ne pas être dispersé sur la terre. Il voulait rester uni pour avoir plus de force et de puissance. Être uni pour mieux régner. Et restaient alors les maîtres incontestés. Et Dieu alors vient arrêter cette machination et le jugement de Dieu s'abat. Ces hommes se croyaient arrivés jusqu'au ciel à cause de leur construction. Mais il est dit, l'Éternel descendit du ciel pour voir la terre, pour voir la ville. Il ridiculise ainsi et abaisse la vanité de ses bâtisseurs en descendant bien bas pour voir leur orgueilleuse construction. Et là, eh bien voilà, il sépare les êtres humains en multipliant les dialectes. Au-delà du jugement, je vois quand même que le but de Dieu est de casser la machine infernale du péché. Dieu avait laissé une très grande liberté à l'être humain. Quelle solution alors peut-il y avoir, si ce n'est pour leur donner une chance de recommencer à zéro, de les éloigner les uns des autres. Pour repartir à zéro avec un Abraham. Et c'est l'épisode suivant. Dieu repart à zéro, parce que son but, c'est de sauver l'être humain. Arrivons maintenant à la Pentecôte, donc dans le livre des Actes au chapitre 2. Pentecôte ou la possibilité d'une transformation profonde. La situation sous certains aspects fait penser à celle de Babel. Les hommes sont rassemblés, ils sont réunis à Jérusalem. Ils viennent de toutes les contrées, depuis Rome, jusqu'au pays des Parthes, à 2500 kilomètres de là, il faut le faire quand même, hein, pour venir à Jérusalem pour célébrer une fête. Le but est spirituel là aussi, à savoir refaire comme leurs ancêtres le pèlerinage à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais il y a une autre réunion qui se passe dans la ville, une réunion cachée. 120 disciples de Jésus-Christ sont réunis. Leur but ? Prier Dieu. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cela se passe juste avant ce récit de la Pentecôte, quand Dieu envoie son esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ils vivaient ces deux faits, l'unité, comme à Babel, oui, et à travers la prière, la soumission à Dieu, à l'opposé, là, de Babel. Et c'est alors que Dieu descend sous la forme de langue de feu. Cela symbolise la parole qui vient de Dieu, mais aussi une parole purifiée, purifiée par le feu. Dieu leur donne alors de s'exprimer dans au moins 14 langues différentes qui sont connues du monde de l'époque. À la Pentecôte, le Saint-Esprit montre qu'il descend habiter dans la vie de ceux qui sont soumis à Dieu. La prière en est le signe. Oui, à partir de ce moment-là, Dieu est présent à travers le Saint-Esprit dans les croyants et il agit en eux. Et là alors, c'est le contraire de Babel où l'être humain veut prendre la place de Dieu. À partir de cette Pentecôte, c'est celui qui accepte de se soumettre à Dieu qui connaît une transformation de vie opérée par le Saint-Esprit. Il n'y a qu'à regarder les disciples. C'est l'opposé de Superman. Au moment où ils auraient dû prouver leur fidélité à leur maître, quelques 50 jours auparavant, quand Jésus est fait prisonnier, tous, même Pierre, fuient. Ensuite, ils sont enfermés, à double tour, dans la chambre haute. Ils sont terrorisés. Mais quand le Saint-Esprit remplit leur vie, alors ils sortent, alors ils n'ont plus peur, ils témoignent de Jésus-Christ, ils sont transformés intérieurement. Ce miracle des langues peut avoir un parallèle avec l'histoire de Babel, mais le but de Dieu alors est bien différent. Il envoie ces différentes langues non comme un signe de jugement, mais pour sauver, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors qu'à Babel, les diverses langues étaient envoyées pour arrêter la gangrène du péché. À Pentecôte, les langues sont données pour annoncer les merveilles de Dieu, est-il dit, pour annoncer la bonne nouvelle du salut qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour donner la vie. Et à travers ces deux épisodes, un négatif et l'autre positif, ce qui ressort des deux, en fait, c'est l'amour de Dieu qui veut sauver sa créature, qui pourtant s'est opposé à lui. Le plan de Dieu est de récupérer l'être humain qui s'éloigne de lui. Dieu l'avait annoncé, en particulier par Ézéchiel, 600 ans avant la réalisation lors de cette Pentecôte. « Je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays » au lieu de la dispersion à Babel, c'est le mouvement inverse là qui se passe. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme de la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. » C'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Voilà la solution radicale. Ce changement intérieur sera possible par l'action du Saint-Esprit que Dieu enverrait. L'apôtre Paul continuera dans ce sens-là, en disant par exemple dans l'Épître aux Romains chapitre 8, « L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ou encore, « L'esprit nous aide dans notre faiblesse. » Ou dans la première épître aux Corinthiens, il dit « Nous avons tous été baptisés, plongés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voilà donc ces affirmations qui montrent que l'action du Saint-Esprit nous transforme individuellement en nous donnant cette force que nous n'avons pas par nous-mêmes pour vivre selon la volonté de Dieu. Et la présence du Saint-Esprit alors nous unit pour que ensemble nous formions le corps de Christ. Voilà le but de Dieu à travers ces quelques versets pour nous faire connaître le plan de Dieu. Mais j'aimerais ajouter que tout cela est rendu possible à cause de ce que Jésus a fait et a vécu. En effet, il a refusé de faire ce que les hommes ont fait à Babel, à savoir construire une ville. Les Juifs attendaient du Messie qu'il délivre des Romains et qu'il crée un royaume terrestre. Mais Jésus affirme à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus a refusé de faire une tour qui touche le ciel. Au contraire, dans son humilité parfaite, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il n'a pas cherché à rester de force l'égal de Dieu. Au contraire, dans l'épître aux Éphésiens, il dit qu'il est descendu dans l'enfer humain. Il a refusé l'orgueil. Il s'abaissa à lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. Jésus a vécu parfaitement soumis à son Père. Quelques remarques maintenant pour terminer. Je crois que Babel nous interpelle aujourd'hui. Notre société technologique peut mettre son intelligence dans des buts qui peuvent paraître louables et qui sont intéressants. Mais les motivations sont pourries par le péché. C'est Martin Luther King qui disait « Notre puissance scientifique a détrôné notre puissance spirituelle. Nous avons désormais des missiles téléguidés et des hommes égarés. » J'ai pensé aussi à cette réflexion d'Einstein qui est intéressante à ce propos. « L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. » Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Mais attention, regardons à nous-mêmes aussi. Notre vie manifeste-t-elle une indépendance vis-à-vis de Dieu? Nos projets, notre manière de vivre peuvent refléter une croyance en Dieu, mais en fait, sans la volonté de lui être soumis. Saint-Exupéry disait aussi « Ta pyramide n'a pas de sens si elle ne s'achève pas en Dieu. » Alors on pense tout de suite peut-être à la pyramide du Louvre. C'est un édifice qui démontre la capacité technologique de l'être humain, mais qui démontre aussi son indépendance, son autonomie par rapport à Dieu. Notre vie n'a de sens que si elle est soumise à Dieu dans tous les domaines. Le message de Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est bien celui de la soumission à Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. S'il y a la soumission devant Dieu, il y a la conséquence qui est la soumission vis-à-vis des autres. À l'exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit, laissez-vous contrôler dans tous les domaines par l'Esprit de Dieu. Ne prenez pas le contrôle par vous-même de votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, c'est cela le sens. Eh bien, il y a plusieurs conséquences alors à cela. Et la dernière est « Soumettez-vous les uns aux autres. » Éphésiens 5, verset 21. Il s'agit donc d'un déplacement d'intérêt. ce n'est plus moi qui suis au centre, mais aussi d'un déplacement de la source des capacités. Au lieu de compter sur soi-même, c'est sur l'action du Saint-Esprit qu'on s'appuie. Alors, en parlant de la tour de Babel, j'ai lu cette histoire qui se passait à Bagdad. Une histoire de tour aussi. Il y a très longtemps, un prince très riche avait mis son or dans une tour. Mais un jour, la ville a été prise et les conquérants ont enfermé l'homme dans sa tour en lui disant « Mange et bois ce que tu as tant aimé. » Et là, dans sa tour, il est mort. Une vie fondée sur la recherche des possessions, en s'appuyant sur son intelligence, sur ses biens personnels, loin de Dieu, porte des fruits amers, tôt ou tard. Babel n'est pas seulement une histoire du passé. Elle se renouvelle toutes les fois où l'être humain, ou moi, se laisse dominer par son orgueil et ce qui est son corollaire par son désir d'indépendance. Mais voilà, depuis la Pentecôte, en cette année 30 à peu près, le Seigneur a donné la solution pour connaître une transformation profonde, autant dans notre relation avec lui-même que dans celle avec les autres. Il donne son Saint-Esprit à ceux qui se donnent à lui. Nous pourrions passer un moment dans la méditation personnelle. Je vous propose de le faire devant Dieu, dans la prière.